Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il était là, ce mur, avant? Ben, non, je crois pas. Il a fait le mur, il l'a vite fait, mais s'il n'était pas sur le chantier personnellement, un mur le plus tristement célèbre de l'histoire peut-être, qui pendant près de 30 ans a coupé en deux la ville de Berlin et bien au-delà, Stéphane Bern nous raconte l'homme qui a dirigé l'Union soviétique à la mort de Staline et a décidé de l'ériger, Khrouchtchev, Monsieur K ou Nikita pour les intimes.
Tel un champignon, un mur a poussé dans la nuit. Au petit matin du 13 août 1961, imaginez la stupéfaction des Berlinois qui découvrent que leur ville est désormais coupée en deux. Pour l'heure, ce ne sont que des barrières et des barbelés qu'il vaut mieux éviter d'enjamber, car près de 15 000 membres des forces armées bloquent déjà les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Les jours suivants, c'est un long mur en pierre qui prend forme. Il n'aura de cesse d'être renforcé jusqu'à sa chute en novembre 1989. Les familles sont séparées, les rues et les quartiers coupés. On l'appelle le mur de la honte. L'homme qui l'a fait ériger pour régler la question de Berlin, pour reprendre ses mots, est un leader soviétique ambivalent au nom autoritaire de Khrouchtchev. Né en 1894 dans l'Empire russe, Nikita Sergeïevitch Khrouchtchev, fils de paysan, gravit rapidement les échelons de la hiérarchie soviétique et devient secrétaire du comité central du Parti communiste de la République d'Ukraine. Il est alors pleinement stalinien et entonne avec les autres dirigeants les louanges de celui qu'il appelle le phare et guide de l'humanité progressiste. Quand son phare s'éteint en 1953, c'est-à-dire à la mort de Staline, Khrouchtchev retourne sa veste du bon côté et se met à dénoncer les crimes et le culte de la personnalité du petit père des peuples. Khrouchtchev devient le premier secrétaire du parti puis président du Conseil des ministres en 1958. Avec lui, la guerre froide entre dans une phase de détente. Le leader soviétique aimerait une coexistence pacifique entre les États-Unis et son pays. L'ombre au tableau, c'est Berlin. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation, soviétique, britannique, américaine et française. Alors que Staline organise le blocus de la ville en 1948-49, les Américains répondent par la mise en place du plus grand pont aérien de l'histoire. Il ravitaille ainsi 2 millions d'habitants. Suite à cela, les Alliés unissent leurs forces et réunissent leurs zones pour former la République fédérale allemande, la RFA à l'ouest. Celle-ci fait face à la République démocratique allemande, la RDA à l'est. Pour que le partage soit équitable, la capitale Berlin s'était retrouvée coupée en deux. Berlin-Ouest constitue une enclave du monde occidental en plein milieu de l'Allemagne de l'Est. Le problème, c'est que le passage est hyper facile entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, ce qui empêche de fermer les frontières entre les deux blocs. Il y a quand même 500 000 personnes qui franchissent chaque jour, dans un sens ou dans l'autre, la ligne de démarcation. Parfois, certains oublient de rentrer. Il faut dire qu'à l'Ouest, on respecte les libertés individuelles et les salaires sont plus élevés. Bah, ça donne envie. Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest, dit même que les Allemands votent avec leurs pieds. Pour endiguer cette situation, Khrouchtchev instaure alors un délit de fuite de la République en 1957. Mais rien n'y fait. Entre 1949 et 1961, la RDA perd pas moins de 2,7 millions d'habitants. Son chef, Walter Ulbricht, alerte le maître du Kremlin. Il faut agir. Khrouchtchev qualifie Berlin-Ouest de tumeur cancéreuse qui nécessite une intervention chirurgicale. En 1958, il propose de faire de Berlin une ville libre. La liberté étant un concept qui échappe souvent aux soviétiques, les alliés déclinent la proposition. Ils resteront bien à Berlin. Malgré ce refus, Khrouchtchev continue d'œuvrer pour le rapprochement entre les deux superpuissances. Il va même faire quelque chose de sacrément nouveau, prendre un avion en direction de Washington en septembre 1959. C'est la première fois qu'un leader soviétique foule le sol américain. « Nous sommes venus à vous le cœur ouvert et animés de bonnes intentions », clame-t-il aux côtés du président Eisenhower. Puis direction la Cité des Anges, Los Angeles. La visite commence dans la joie et la bonne humeur. Khrouchtchev parcourt les studios de la 20th Century Fox à Hollywood, où il déjeune même avec quelques stars, parmi lesquelles Frank Sinatra et Marilyn Monroe. Soudain, c'est le drame. Les Américains lui annoncent que sa visite de Disneyland, le parc d'attractions qui a ouvert ses portes 4 ans plus tôt, est annulée. Pour des raisons de sécurité, le leader soviétique ne rencontrera pas Mickey. Le rouge entre dans une colère noire. Il ne s'en cache pas devant les journalistes à qui il balance. Quel problème? Y a-t-il des rampes de missiles ici? Ou une épidémie de choléra? À moins que des gangsters se soient emparés du parc et s'apprêtent à me tuer, que dois-je faire? Me suicider ? Khrouchtchev ose parler de missiles. Lui qui en planquera à Cuba. L'île dirigée par son ami Fidel Castro alors qu'à l'automne 1962, le monde a failli basculer dans une guerre nucléaire frôlant la Troisième Guerre mondiale. Mais après le bras de fer entre Kennedy et Khrouchtchev, ce dernier donnera finalement l'ordre de retirer ses missiles. Pour la question du mur, il donne le feu vert à Ulbricht en insistant bien pour qu'il y ait zéro empiétement sur le secteur ouest. Pas d'un millimètre, insiste-t-il. C'est ainsi qu'est déclenchée l'opération Muraille de Chine. Son but, encercler Berlin-Ouest dans un anneau de fer. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, barrières et barbelés sont donc posés. Contre toute attente, les Alliés vont réagir avec passivité. Un mur vaut mieux qu'une guerre. C'est ce qu'affirme John Fitzgerald Kennedy, mais les Berlinois de l'Ouest l'ont mauvaise. Alors pour se faire pardonner, le président américain vient en 1963 prononcer son discours selon lequel tous les hommes libres sont des citoyens de cette ville. Lui-même, en tant qu'homme libre, est fier de pouvoir dire « Ich bin ein Berliner ».
As a free man, I take pride in the word « Ich bin ein Berliner ».
En fait, c'est une faute d'allemand,
oui, c'est une faute,
parce que ça veut dire « je suis un petit biscuit
». Un petit biscuit, il y a peut-être un double sens.
Un Berliner, c'est le nom d'un biscuit. C'est pas comme ça qu'on appelle les Berlinois. Enfin bref, il pouvait pas le savoir, il était américain. Mais enfin, les gens ont compris le sens.
Oui.
Seul le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, proteste en déclarant « sous le regard de la communauté mondiale des peuples, Berlin accuse les séparateurs de la ville qui oppressent Berlin-Est et menacent Berlin-Ouest de crimes contre le droit international et contre l'humanité ». Un puissant discours grâce auquel il obtiendra le prix Nobel de la paix 10 ans plus tard. Côté RDA, on est très content de, je cite, « ce mur de protection antifasciste ». Dans un éditorial, Ulbricht rappelle sa nécessité absolue. La vermine contre-révolutionnaire, les espions, les saboteurs, les profiteurs et les trafiquants d'hommes, les prostituées, les adolescents hooligans et d'autres ennemis de l'ordre démocratique du peuple ont sucé le sang de notre République des ouvriers et des paysans. C'est la raison pour laquelle nous avons colmaté les fissures de notre maison et bouché les trous à travers lesquels les pires ennemis du peuple allemand pouvaient se faufiler. Mais bien des Allemands en quête d'espoir vont tenter de se faufiler, essayant de franchir le mur au péril de leur vie. Certains ont creusé des tunnels quand d'autres se cachaient dans des coffres de voitures. Les méthodes pour fuir à l'ouest furent nombreuses. Pendant ce temps, en URSS, Khrouchtchev mène des réformes agraires qui s'avèrent peu efficaces. Le pays doit acheter du blé à l'Amérique du Nord, c'est pour dire. Le leader soviétique est démis de ses fonctions en 1964 et remplacé par Brejnev. Il coule une retraite paisible à Berlin, Est bien sûr, jusqu'à sa mort en septembre 1971. C'est ensuite un autre chef qui prend la tête de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Cette guerre froide, il n'en peut plus alors qu'on en finisse. Avec des réformes de libéralisation, il ouvre son pays au monde. En résulte une image que l'on a tous vécue en direct sur les télés et les radios du monde entier, en tout cas ceux qui étaient nés, la chute du mur de Berlin, fracassée par des Allemands soulagés, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Et après la chute de ce mur, grand symbole de la guerre froide, ce sera celle de l'URSS 2 ans après.